marche dans tes rues, qui me marche sur les pieds. Je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta Seine.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une autre édition d'Un océan à l'autre. En ce lundi de printemps, lundi de confinement, nous avons tous la fièvre de sortir de chez nous. Et pour chez vous, comme chez nous, nous avons des gouvernements, tous les deux, incohérents, et on ne sait pas si on s'en va, on avance ou on recule. Comme dit mon ami Collins, les gouvernements font la danse du Bafia, on avance de deux pas, on recule en arrière. Alors on va en discuter tout ça avec Marie-Pierre Medouga. Nous aurons toujours nos coups de cœur, nos coups de gueule, nos coups de blues. Et notre sujet, nous avons entrepris vendredi un sujet sur comment apprendre à bien vieillir. Alors aujourd'hui, on va regarder comment s'épanouir à tous ces âges et relever ce tabou dont tout le monde craint, qu'on regarde d'un œil différent, l'amour et la sexualité à l'automne de notre vie. Je rejoins par la magie de nos ondes tout de suite Marie-Pierre Medouga. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Francine, comment allez-vous?
Ça va, comme je disais, une journée nuageuse d'un océan à l'autre, chez vous comme chez nous.
Voilà. Oui, tout à fait. Alors, le soleil a fini par se lever sur Reims, ouais. En fin d'après-midi. Donc là, on a un petit soleil avec un ciel un peu voilé. Mais bon, on a des températures tout à fait agréables. Et vous, c'est le printemps, ça y est.
Pas vraiment. C'était le printemps ce week-end. Et ce matin, je vous dirais que vous avez à peu près un 18 degrés sur la France. Nous avons chez nous 8 degrés. Et ça, hier, on avait 24. Vous voyez comment ça se passe.
Oh là 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 là, oui.
Et puis, on nous annonce, les nuits sont très fraîches, sous les zéro, et peut-être que les prochains jours, nous aurons peut-être quelques flocons de neige. Voilà.
Quelques flocons de neige.
On a eu un hiver exécrable, très difficile, très tôt, en beaucoup de neige, très froid, et on a eu un printemps qui vraiment, vraiment frigorifique, pas beau du tout. Alors, je ne sais pas ce qu'on nous réserve, mais avec ce beau week-end, les gens ont voulu sortir, et puis maintenant, nos gouvernements ont décidé de bloquer tous les stationnements qui donnent accès au parc. Et il y a toujours, comme je disais tantôt, on ne sait pas, c'est tellement incohérent qu'on a envie on ne sait pas où on s'en va. Je comprends que c'est inconnu pour eux, que le virus aussi, ils ne connaissent pas, mais il faudrait peut-être avoir une ligne de conduite quelque part. Et essayer de si c'est trop tôt pour déconfiner, alors attendons. Je pense que je déconfine pas, qu'il y a des retours à l'école, oui. C'est un vrai charabia.
Ah, mais c'est mon coup de gueule.
Allez-y pour votre coup de gueule.
Alors, c'est mon coup de gueule. En fait, mes coups de cœur, coups de blues et bonnes nouvelles tourne tout autour de ça. Alors, le coup de gueule, c'est que vraiment, on n'y comprend plus rien. Vous savez ce qu'on dit quand on a des injonctions paradoxales, ça rend les gens fous. Eh bien, on a deux doigts de devenir fous. Parce qu'effectivement, on ne comprend rien. Les masques, les pas-masques, les rétentions de masques par les supermarchés, qui étaient là, qui n'étaient plus là, mais il y avait donc...
Il n'y en a pas.
Exactement, ça coûte 5 euros. Non, en fait, ça va coûter moins que ça, moins d'un euro. Mais c'est les pharmacies, mais c'est les tabacs. Il fallait en maths, mais c'est pas obligatoire. Et comme les enfants.
Ils ne respectent pas les normes. C'est vrai, ouais, tout ça.
On devient dada. Tous complètement fous. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est mon coup de gueule parce que forcément, avec une avalanche d'infos si contradictoires, ouais. Il est forcé qu'on écoute finalement que ce que l'on a envie d'entendre, nous. Hein? Et donc, ça peut nous amener, ou ça peut amener le grand public à faire des erreurs.
Ah, bien
tout
sûr.
Simplement parce qu'au bout d'un moment, on va dire, oula, c'est trop compliqué, moi je fais ce que je veux. Voilà.
Parce que même au sein du gouvernement, ils ne sont pas tous d'accord. Un va donner une conférence, dit quelque chose, et après l'autre dit quelque chose. Sur les plateaux, les médecins évoquent une autre hypothèse. Alors, on ne sait pas, on ne se retrouve pas là-dedans, là.
Mais exactement, regardez, on n'a pas le droit d'aller à plus de 100 km, vous êtes bien d'accord?
Oui.
Et donc on nous dit, mais par contre, on va accepter des gens de l'espace Schengen. C'est, oh. Ça fait plus de 100 km, ça.
Ah oui, mais il y a des gens qui disent qu'ils habitent pas loin d'autres frontières, bon, qui peuvent aller en Allemagne ou peuvent aller ailleurs à 100 km de chez eux.
Hein, oui, ceux-là, mais les autres.
Mais c'est ça.
Voilà, donc on ne comprend plus rien du tout, donc. Alors vraiment, ça m'a vraiment énervé. Ça, c'était vraiment mon coup de gueule. Et le vôtre?
Mon coup de gueule, ben, c'est un peu dans les masques aussi. J'ai vu que chez vous, il y a une jeune femme qui écrivait justement sur les réseaux Twitter et elle montrait photo à l'appui avec le prix qu'elle avait acheté pour sa fille qui a une maladie, qui a besoin de porter un masque chirurgical et qu'elle avait payé, on va faire les chiffres en là, enfin, elle avait payé 3,95 € pour une boîte de 50 masques. Admettons 4 €. D'accord? Et maintenant, on achète le même masque à 95 centimes, soit pour 50, qui va devenir à 50 € la même boîte. Mais c'est aberrant. C'est quoi ça?
C'est ça.
C'est quoi ça? Oui. Et puis là, on a demandé aux jeunes couturières qui a dit, moi, c'est terminé. Là, je fais les masques, là. Mais pour avoir une approbation, je ne sais pas, une certification, comme quoi ces masques étaient bien, ça a dû coûter je ne sais pas combien. Ben, elle a dit basta, c'est terminé. Et puis là, on dit que, oui, votre ministre de la Santé, Olivier Véran, dit que oui, les masques, ils sont certifiés à 90%, ce n'est pas les masques chirurgicaux, mais c'est bien. D'autres qui disent, mais non, parce que c'est les masques de grand public. Enfin, vous avez bien chanceux d'en trouver. Moi, il m'en reste un là, et j'en ai plus après. Mais je vais faire avec le papier essuie-tout, avec un linge entre les deux et mettre des élastiques.
Tout à fait, avec voilà. Un linge entre les deux.
Oui, moi je vous dirais.
On en est rendu là.
Hein. Oui, mais je vous dirais que Marie-Pierre, moi, les masques avec faits de tissu, ça m'inquiète un peu parce qu'on dit qu'on doit les changer. Et ici, on a des compagnies qui en font de très bien. Malheureusement, c'est à court. Alors, on doit les réserver à tous les matins 10 h. On doit venir voir parce que ceux-là sont vraiment faits de coton tissé. On peut mettre un filtre entre les deux épaisseurs. Mais comme elle dit, il faut les changer deux fois par jour si on les porte. Et puis, il faut les laver. Alors, ça en prend au moins 3. Hein, et c'est 20 € chaque masque. Ben là...
Chaque masque.
Oui, parce que c'est du coton, c'est fabriqué à la main et voilà. Mais écoutez, là, je pense que avec le comment vous appelez le essuie-tout chez vous là.
Oui.
Le c'est comment vous l'appelez? Votre papier.
Oui, c'est ça, le sopalin.
Le sopalin, c'est ça. Oui, c'est ça.
Alors, le sopalin, c'est une marque.
Oui, c'est une marque.
Alors, sopalin, c'est une marque. Hein, ouais. Donc, c'est l'essuie-tout.
L'essuie-tout. Alors, entre les deux, on met un petit mouchoir en papier et puis on fait un accordéon, on met deux bandes élastiques et ça fait l'affaire. Je ne sais pas, j'ai l'impression que là, il y a des masques partout, que c'est presque, ça va devenir comme une parade de mode là, avec des fleurs, c'est très joli, d'accord. Mais est-ce que c'est efficace? C'est surtout ça qui est important. Alors enfin, je trouve que de 4 € à 50 € là, ben il y a un problème quelque part.
Il y a un gros problème. Voilà. Oh non, alors là, on est tout à fait d'accord.
Alors ça, c'est mon coup de gueule.
Ma bonne nouvelle, mon coup de cœur.
Oui.
C'est en fait j'ai lu un article dans Jeune Afrique. Qui disait qu'aujourd'hui, on en sait un petit peu plus et il semblerait que le continent africain soit effectivement beaucoup moins touché.
Oui, c'est vrai, j'ai lu ça aussi.
Maintenant, c'est moins tout. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'était l'une des plus grosses inquiétudes avec près avec un milliard d'individus, un système de santé qui est extrêmement lacunaire. Hein.
Ouais.
Donc, de se dire que ça allait être une pandémie terrible.
Ouais.
Mais en fait, il y a plusieurs facteurs qui semblent montrer que, d'une part, avec les différentes pandémies qu'ils ont eues, Ebola entre autres, il semblerait que les systèmes de santé soient plus aguerris.
Oui, mais on a dit qu'on les soignait beaucoup avec au Sénégal particulièrement avec l'hydrochloroxine et puis aussi et ce nouveau médicament qu'on distribue partout là, Covid organique qui est fait avec de cette plante Artemisia ou je ne sais quoi qu'on distribue.
Artemisia qui soigne déjà, c'est une plante que l'OMS n'aime pas mais qui soigne déjà le paludisme.
Ouais.
On en fait des infusions pour ne pas attraper le paludisme.
Mais là, elle est distribuée partout. Il est distribué partout. J'ai vu qu'il y avait une conférence avec toutes les élus africains qui parlaient. Et puis, on a dit que oui, on va vous en distribuer et on s'en va partout. Et moi, ben, vous parlez de ça, votre bonne nouvelle. Moi, je voudrais faire un chapeau au Maroc qui a su. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont pris ça depuis le début. Ils sont très sévères, mais ça fonctionne très, très bien au Maroc, je veux dire, pour la...
Ah, oui.
Hein? Alors,
tout à fait.
Alors, on a...
Et
on...
que tout le monde a... Des masques qui coûtent 10 centimes. Je m'énervais ce matin en disant, non, ils arrivent à distribuer des masques à 10 centimes.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais. Et depuis le début, hein, tout le monde en a. Depuis le début, tout le monde a l'hydroxychloroquine, ils en ont tous. Et voilà. Enfin. Alors, on a beau dire, on a beau faire. Ouais.
Voilà. Donc, il faut qu'on nous explique le principe, parce que là, je ne comprends pas bien.
Ah oui, mais là, vous savez.
Ça fonctionne, et dans un cas, ça ne fonctionne pas. Autre facteur quand même.
Ouais.
Les personnes âgées vivent en famille. Ça, c'est quand même une chose. Elles sont pas toutes ensemble dans un EHPAD, donc avec des phénomènes de contamination plus fortes. Et puis, la population est très jeune. En Afrique, la moyenne d'âge, c'est entre 20 et 22 ans, quand même.
Ouais. Mais en Afrique, les gens meurent beaucoup plus jeunes aussi. Hein.
Bien sûr, ouais, mais le continent est très, très jeune, quand même. Ouais. Moi, ça m'avait marqué. On parle des anciens et de m'être vraiment sentie ancienne là-bas. Parce que vraiment, j'étais une ancienne et ça m'avait fait sourire en me disant « Ah oui, quand même, c'est vrai qu'on oublie cette jeunesse fantastique qu'il y a en Afrique qui font que, voilà, alors il y a une exception pour le moment, on croise les doigts pour que ça dure, hein,
ouais.
Et effectivement, le continent est moins touché. » Voilà, ça c'était mon coup de cœur parce que c'est une bonne nouvelle quand même.
Mm-hmm. Et voilà. Vous avez un coup de blues ?
Un petit coup de blues et en même temps, alors c'est plutôt plus près du coup de cœur que du coup de blues. On parlait du déconfinement.
Oui.
Eh bien, le Sénat a décidé de ne pas suivre le gouvernement. Donc, je suis plutôt satisfaite. parce qu'effectivement, bon, le Sénat, ce sont des sages. Hein. Parfois, on trouve qu'effectivement, ils sont trop prudents.
Oui.
Mais il est important d'avoir quand même deux chambres, comme chez vous aussi. Hein. Il est important d'avoir deux chambres. Parce que ça permet quand même d'écouter tous les points de vue. Et là, ça représente les collectivités territoriales, le Sénat. Ça veut dire que ça représente les maires, les départements, les régions qui sont en prise directe avec le Covid et avec la pandémie et avec son traitement.
Ouais.
Et ils sont plus près des gens qui sont malades. S'ils estiment que pour le moment, toutes les conditions ne sont pas réunies dans le plan de déconfinement qui est présenté par notre gouvernement, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le penser. Le Sénat est souvent composé d'une opposition, donc il y a beaucoup de gens d'une opposition qui n'est pas qu'une opposition de gauche, qui peut être aussi d'une opposition de droite, et il y a quand même des questions que pose le Sénat. Et il joue son rôle de garde-fou.
Bien sûr.
Et j'étais plutôt contente.
Bon, bah voilà. Alors c'est bien. Comme chez nous, on a toujours des gouvernements à l'opposition. Et chez nous, au Canada, on a un gouvernement qui n'est pas majoritaire. Donc, il ne peut pas faire ses manœuvres comme il veut, beaucoup moins qu'avant, même s'il était majoritaire. Alors, il doit avoir l'appui des autres partis, ce qui est bien parce que ça donne deux sons de cloche et on peut voir tout ce qu'ils font. Alors, ils peuvent décider oui, c'est bien, c'est non. Il y a plus de discussions qui se font à ce sujet. Alors, c'est, d'un côté, c'est la démocratie. On peut regarder ce qui se passe. Moi, j'ai pas vraiment, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de blues, c'est un coup de réflexion. Et c'est un article que j'ai lu dans le Courrier international. Vous savez, tous les week-ends, ils ont une lettre de quelqu'un qui ça s'appelle Modern Love. Et c'est traduit en français. Et cette semaine, c'était sur, en première ligne de la pandémie, « Je t'aime » veut parfois dire « adieu ». Et c'est un médecin qui travaille à l'hôpital à Washington et qui dit que le matin quand il embrasse sa femme, il dit je t'aime, mais c'est un au revoir, pas qu'il va revenir le soir, parce que là il a dû envoyer sa femme et ses enfants chez son frère parce qu'il y a beaucoup de cas là-bas. Il avait peur de rentrer ça chez lui. Par la suite, il a décidé bon que dans le fond il enlèverait ses vêtements et qu'il ferait tout. Les enfants sont revenus, mais il avait beaucoup de cas là-bas. Et ses enfants sont, lui, il a décidé de, pour protéger sa famille, de rester à l'hôtel et de continuer parce qu'il y avait beaucoup de ses collègues qui avaient attrapé le Covid-19. Et il se dit qu'il voyait toutes les gens, toutes les personnes là-bas, des mamies ou des papas ou des mamans qui disaient, parce que confinés, ne pouvaient pas recevoir à l'hôpital non plus de avoir de visite, alors que les adieux voulaient dire souvent le je t'aime voulait dire un adieu, et qu'il aurait voulu serrer ces personnes-là dans ses bras comme il faisait habituellement quand quelqu'un va mourir, mais que la maladie ne le permet pas. Alors tout ça, c'était une mamie disait bah, ses petits enfants, je veux vous dire que je vous aime, mais que les petits enfants comprenaient immédiatement que c'était la dernière fois qu'elle leur disait ça. Que ce je t'aime là voulait, oui, c'était un adieu. Alors c'est touchant et triste à la fois de voir qu'on en est rendu là, et c'est ça, qu'un je t'aime a plusieurs significations. C'était un coup de blues, disons, comme ça, peut-être.
Un coup de blues. C'est très émouvant parce qu'effectivement.
Même lui qui disait qu'il a vu son petit gamin qui a fait ses premiers pas à travers une tablette. Il m'a dit, bon, c'était presque vivant parce que je le voyais sur un écran à ma chambre d'hôtel, mais il courait pas vers moi en faisant ses premiers pas.
Ouais.
Et c'est triste, hein. Et je pense qu'on disait ce matin que pour tous les jeunes médecins, surtout là, qui étudient, qui vont aider dans les centres, dans les hôpitaux, que ces gens-là de carrière vont s'en souvenir longtemps. Ils vont être marqués par cette pandémie, par le travail, par ce qu'ils voient dans les hôpitaux. Et que ça va rester marqué. Enfin, on va essayer d'être un peu plus gai. On va faire une courte pause, Marie-Pierre, puis on va entreprendre notre deuxième partie sur à l'automne de notre vie, sur l'amour, la sexualité, comment s'épanouir dans tout ça. On revient dans quelques secondes. Vous êtes toujours sur Troc Radio et vous écoutez D'un océan à l'autre.
J'ai mon bonheur. Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux.
Vous êtes sur Troc Radio et vous écoutez D'un océan à l'autre. C'était Douce France, Marie-Pierre. Vous êtes là? Oui.
Douce. Je suis là.
Ouais, j'écoutais ça et ça me disait, j'écoutais les commentaires qu'on disait que oui, quand on va réouvrir tout ça, tous les étrangers qui vont arriver chez vous vont devoir être en quarantaine. Alors, je trouve ça triste un peu. Si je veux aller chez vous, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille de longues, longues vacances si on me met en quarantaine 14 jours avant de pouvoir me promener. Enfin, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais je trouve un peu partout comme ça. On va devoir s'y habituer, à moins que cela ne change.
Enfin. On va devoir changer et probablement un petit peu moins se promener qu'on ne le faisait avant, ou différemment en tout cas. Mais j'avais une amie qui me disait qu'elle était prête à prendre pour retourner au Québec. Vous savez que je connais pas mal de gens au Québec.
Oui.
Et qui disait qu'elle était prête à prendre le bateau pour aller au Québec, puisque l'avion c'était compliqué.
Ouais, ben ils vont la mettre en quarantaine pareil. Je veux dire, ce matin, on a juste ouvert certains barrages d'une région, ben parce que c'est grand chez nous, alors pour aller dans les Laurentides, des personnes qui ont des chalets, tout ça. On leur demande même de faire leur épicerie chez vous, chez eux, avant d'arriver à leur chalet là-bas. Et les gens de la place qui habitent là-bas, mais sont pas très intéressés à voir des gens qui viennent parce que ils ont peur, comme la pandémie, le noyau est ici à Montréal, Québec, c'est là qu'il y en a le plus, hein. Surtout, à Montréal et les environs, ils veulent pas qu'on ramène ça chez eux, et je les comprends. Enfin, c'est toute une histoire, cette pandémie. On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit chez vous, on n'est pas sorti du bois, comme on dit ici. Alors, allons-y avec, à l'automne de notre vie. Comment s'épanouir quand même? On a dit qu'on pouvait être belle à tout âge, que c'était dans les yeux des autres, qu'on disait que les hommes vieillissaient mieux, pour reprendre tout ce qu'on a dit vendredi, mais qu'enfin, dans les yeux qu'on est ça, parce qu'en réalité, tout le monde vieillit, d'autres peut-être mieux, peut-être moins bien. Certains gènes sont plus, certaines nations aussi, certains vieillissent mieux que d'autres, dépendant de la peau, dépendant de tout ça. Mais il faut savoir s'accepter, puis il est possible d'avoir, de s'épanouir à travers tous les âges.
Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, lorsqu'on arrive dans la maturité, oui. on dit plus vraiment vieillesse.
Oh non, on ne dit pas ça.
Même si on est senior à partir de...
Je déteste ce mot. Oui, d'accord.
Je sais, mais senior veut simplement dire, alors dans le travail, un senior, c'est une personne
qui est expérimentée. Ah oui, ça c'est beau, ça dans le travail, voilà. D'accord, voilà.
Voilà, et donc c'est une personne qui est expérimentée, hein, qui est entrée dans la maturité, mm-hmm. et qui maîtrise, qui a une grande expertise, c'est ça un senior pour moi.
Ouais.
Voilà. Et donc on dit, il se trouve, et j'ai lu cette statistique que je vous donne, qu'en fait... plus de la moitié des célibataires en France ont plus de 50 ans.
Ah.
Et ce sont principalement des femmes. Ce qui veut dire que la moitié des célibataires sont des femmes, elles ont plus de 60 ans, et aujourd'hui, avoir 60 ans, ce n'est plus comme à l'époque, quand on avait 60 ans, qu'on s'habillait en noir, qu'on ne sortait pas, et que notre vie était complètement gâchée. À 60 ans, certaines travaillent encore, hein. La retraite à 60 ans, c'était presque hier. Donc, certains, quand on n'est pas fonctionnaire, grosso modo, on travaille toujours à 60 ans. On est une jeune grand-mère, puisque les enfants font des enfants de plus en plus tard, quand on a eu des enfants. Et on est de plein pied dans la modernité, parce qu'on a les téléphones, parce qu'on a envie de marcher. Avoir 60 ans aujourd'hui, c'est avoir encore une espérance de vie de 25 ans, grosso modo.
Mmh.
Donc, c'est 25 ans encore à vivre pleinement, des coups de cœur, comme on le dit, et une sexualité, parce que la sexualité ne s'est pas arrêtée avec l'arrivée de la ménopause.
Non, mais il faut dire que les personnes aussi aujourd'hui de 60 ans, on prend bien soin de soi. Hein, on en avait parlé, comment prendre soin de soi. Mais les gens font de l'exercice, mangent mieux, ils prennent conscience de leur corps.
Oui, tout à fait. Et on l'a remarqué, hein, regardez dans la rue, simplement marcher des femmes, on est incapable de dire, sauf si elles ont vraiment la peau extrêmement ridée, ça arrive.
Oui.
Mais on est incapable de leur dire en les voyant marcher, qu'elles sont habillées comme on le disait auparavant, comme des vieilles. Avant, on disait elles sont habillées comme des grand-mères.
Mm-hmm.
Et là, on dirait plutôt non, elles sont, voilà, les femmes dans la rue s'habillent, marchent, courent, prennent le bus, font des trajets. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui, c'est très difficile de donner de toute manière un âge aux femmes, hein, mm-hmm. dans la rue.
Ouais.
Et on s'y trompe souvent. Et voilà, et donc nous retrouvons aujourd'hui, en 2020, avec une population de femmes, certaines sont en couple, la moitié sont célibataires, mmh. avec un appétit de vivre. Les enfants ne sont plus à la maison, ou pas tous en tout cas, sauf si elles se sont remariées, qu'elles les ont eues un peu tard, mais grosso modo, les enfants ont 20 et 30 ans.
À moins d'avoir un Tanguy, comme vous appelez chez vous, à la maison, qui revienne après.
Oui, ou d'avoir commencé tard, hein, aussi. Hein.
Oui,
il y a des femmes qui ont commencé à avoir des enfants à la quarantaine.
Oui.
Donc, leurs enfants ont tout juste 20 ans, mais grosso modo, à 60 ans aujourd'hui, on a fait ses preuves professionnellement.
Voilà, on est plus libéré, on est plus libre.
On est dans une phase de transmission.
Mm-hmm.
Souvent. Donc, cette phase de transmission au niveau du travail, ça fait que sur d'autres plans, on est un petit peu plus libre. On a des loisirs, généralement.
Oui.
Pas forcément des loisirs onéreux, hein. Tout dépend effectivement de la manière dont on a conduit sa carrière. En France, il y a une majorité de femmes qui travaillent. C'est pas toujours le cas dans d'autres pays, mais en France, il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont travaillé. On a une petite retraite, mais quand on n'est pas forcément... Alors, les femmes souvent souffrent de ce déséquilibre, hein, financier, hein, qui font qu'elles ont eu des carrières souvent qui se sont interrompues pour élever les enfants, ou elles ont accompagner leur époux ou aider leur époux dans l'entreprise. Mmh. Et elles ont souvent peu de retraite ou une toute petite retraite. Mais grosso modo, ça ne les empêche pas d'avoir des activités dans les associations.
Oui, beaucoup. Oui.
Nous, on en a vu beaucoup, en revanche, effectivement, des femmes de 60 ans dans le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui disaient qu'elles avaient une trop petite retraite et que c'était très compliqué pour elles. Mais elles étaient très actives, vous voyez, très actives politiquement, très actives dans les associations, mm-hmm. très actives en tant que bénévoles.
Bénévoles.
Donc, ouais. On a vraiment une génération de personnes qui sont actives.
Ouais. Ils se maintiennent, la forme, ils ont, comme vous dites, ils vont faire du bénévolat, ils sortent à l'extérieur, ils ont une vie, quoi. C'est ça.
Elles ont une vie, ce qui les conduit à avoir une vie amoureuse.
Mm-hmm. Et pourquoi en notre regard sur les personnes, bon, disons 60 ans, c'est pas vraiment sur ce milieu-là que les regards se jettent, qui est un tabou. C'est lorsqu'on tombe sur les personnes qui ont des cheveux blancs. Là, je vous dirais que ça commence à dire, je vous dirais, des gens les regardent, on dit, vache, qu'est-ce que c'est que ça? Ils se tiennent par la main, ils se font des bisous. C'est comme il y a quelque chose de dégueulasse à travers ça. Et au contraire, c'est tellement beau. Il n'y a pas d'âge.
Effectivement, ouais, pour l'amour. Il n'y a pas d'âge pour s'aimer et il n'y a pas d'âge pour avoir une vie amoureuse et une vie sexuelle. Là, on parle et d'amour
et de sexualité. Ouais.
Voilà. Et il n'y a pas d'âge pour avoir une vie sexuelle. Donc, un petit chiffre dans un article très intéressant du Monde qui vous explique que les trois quarts des 57-65 ans sont sexuellement actifs.
Oui. Ben, j'espère bien.
Ensuite, vous avez 53% quand même des 65-75 ans qui sont sexuellement actifs. Et vous avez encore 26% des 75-85 ans qui sont sexuellement actifs.
Ouais, moi, je lisais aussi.
Ensuite, effectivement, on n'a plus de statistiques parce que les gens n'en parlent plus ou les cachent. Parce qu'effectivement, il y a un âge où brutalement, la sexualité donc de nos grands-parents
ou de nos parents carrément
de nos parents ou de nos grands-parents devient tabou. Alors là, on commence à dire non, ce n'est plus possible, ça ne les intéresse pas. Et j'ai vu dans des EHPAD, moi je l'ai entendu, des enfants séparés des couples en disant c'est dégoûtant, on n'a pas le droit de parler de ça, on l'a retrouvé dans le lit de quelqu'un. Alors évidemment, quand les deux étaient consentants.
Je peux comprendre qu'on ne va pas mettre dans sa tête, bon, de dire, d'imaginer nos parents faisant l'amour. Mettons ça. Mais il faut aussi être objectif et penser que avant d'être nos parents, ce sont des êtres humains, un homme et une femme. Et qu'ils ont des besoins comme parents, comme nous en avons comme enfants avec nos partenaires. Notre partenaire, j'allais dire. Pas nos partenaires, mais avec notre amoureux. Alors, c'est comme si c'est dégueulasse ou que ils doivent être des saints, ils doivent pas être, je sais pas, cloîtrés sur l'amour. Ça ne doit plus exister. La sexualité ne doit plus avoir de toucher et plus rien. C'est complètement ridicule.
C'est important. Alors, non seulement c'est ridicule, mais on le sait, la sexualité, c'est la vie.
C'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie, comme manger, comme sortir.
C'est un besoin essentiel.
Ouais.
Exactement. Mm-hmm. Donc, tant qu'on est en vie, on a ce besoin. Certes, il n'est pas aussi, il n'est pas forcément aussi fréquent.
Aussi fougueux.
Aussi fougueux. Et puis, ça dépend des hommes et des femmes. Alors, d'une part, c'est vrai que quand on parle souvent de la sexualité masculine, et on en parle rarement, et c'est souvent parfois les hommes qui portent un regard un peu distancié sur cette histoire, les femmes ont du désir, et l'ont toujours, et même si c'est un peu, même s'il baisse un peu, il y a une petite baisse de libido au départ de la ménopause, cette libido revient, il y a un chamboulement, et ça revient.
Mais là, ça revient chez la femme, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont eu des problèmes, de prostate,
de prostate
aussi, et on dit toujours après, ça ne revient pas, mais il y a toujours ces petites pilules, il y a toujours des moyens, puis il y a toujours plusieurs façons de s'aimer, n'est-ce pas? On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs façons.
Il y a toujours plusieurs façons. C'est vrai que ce n'est pas une émission de sexologie, mais
non, mais
dire clairement, Pour le dire clairement, la pénétration, ce n'est pas l'unique moyen d'avoir des relations sexuelles.
Et ce n'est pas ce qui fait toujours jouir davantage la femme. Voilà.
Tout à fait. Mais c'est vrai que ces questions autour de la libido des hommes et du fait qu'ils ont des problèmes d'érection font qu'on a l'impression que du coup, il n'y a plus de sexualité. D'abord, elle existe toujours. Mm-hmm. D'autre part, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas de problème de prostate, et il y en a, qui n'ont ni problème de prostate, ni problème de diabète, ni problème d'hypertension, donc qui ne sont pas médicamentées d'une manière qui va nuire ou amoindrir leur érection, font que ces personnes peuvent avoir une sexualité tout à fait normale.
Ouais, de toute façon, Marie-Pierre, il y a problème d'érection, ça se voit beaucoup chez les jeunes maintenant. Moi, je sais parce que j'ai une copine qui travaille en laboratoire, puis elle me disait, ils viennent et c'est aberrant de voir comment des jeunes dans la 25-30 ans,
de l'âge,
ont énormément de problèmes érectiles. Alors c'est dû peut-être, je ne sais pas, au stress, à n'importe quoi, mais c'est que, tout ça pour dire que ça n'arrive pas simplement parce que vous avez 60 ans, ça peut arriver aussi bien avant.
Exactement.
Mais pourquoi,
ça arrive avant.
Le regard de ces gens, pourquoi on pense comme ça? Pourquoi les gens regardent ça comme si c'est affreux, comme si c'est dégueulasse, des personnes aux cheveux blancs qui s'aiment et qui ont droit à leur sexualité? Pourquoi avons-nous ce regard?
Parce qu'on a indûment associé jeunesse et sexualité. La jeunesse des corps et la sexualité. Sans imaginer une seconde que nos goûts amoureux peuvent évoluer, et nos standards amoureux peuvent évoluer avec l'âge.
Ouais.
Quand vous êtes jeune, vous ne voulez que des corps jeunes. Peut-être, d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas, on le verra. Mm-hmm. Mais vous n'aimez que des corps jeunes. Et quand vous évoluez dans la vie, vous pouvez aimer un corps avec ses rides, un corps avec sa plus ou moins grande fermeté, parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes.
Ben voilà, c'est ça. Il y a des intérêts.
Voilà, mais ce n'est pas simplement que l'amour, parce que vous pouvez aussi, votre regard peut évoluer.
Voilà.
Quand on aime la personne avec qui on a évolué ensemble.
On la voit belle, peu importe comment. Je dis souvent, vous pouvez être avec un garçon, vous savez, les goûts, les couleurs, bon, que tous les gens autour de vous ne le trouvent pas beau, mais il peut avoir les cheveux gras, avoir des boutons, puis être gros. Mais pour vous, il est le plus beau parce que vous l'aimez, alors vous le voyez autrement.
Oui, je pense que l'apprentissage du regard se fait aussi. Aujourd'hui, on a, ben vous le voyez, puisqu'il y a des défilés de mode qui commencent à faire défiler des femmes aux cheveux blancs, des hommes aux cheveux blancs. Il y a une publicité qui passe sur YouTube, je crois, avec un monsieur qui est d'origine asiatique, qui est magnifique. Il a 85 ans, je crois, ce monsieur. Il fait de la publicité pour... D'ailleurs, il a fait beaucoup de défilé. Certes, c'est un mannequin et c'est un sportif. Donc, il a un corps magnifique à 85 ans, mais certes. Mais voilà, on parle de Sean Connery qui a été très, très longtemps, à plus de 80 ans, un des hommes qui séduisait encore énormément de personnes.
Ouais.
Donc, en fait...
La beauté est différente pour chaque personne. Il y a des personnes, on a vu des acteurs avec des traits grossiers, tout ça, qui avaient un charme extraordinaire. Et pour les gens, le trouvaient beau. Qu'on pense à Gainsbourg, par exemple.
Oui.
Bon,
oui,
alors, mais voilà.
Alors,
c'était pas un dieu, c'était pas Adonis, là, comme on appelle, mais tout le monde le trouvait. Tout le monde, il avait son charme, donc il devenait beau.
Alors, c'est vrai qu'on est aussi, qu'on est piégé par nos stéréotypes.
Ouais.
Les gens disaient beau comme Onassis parce qu'il était vieux. Beau. Et donc on disait un homme est beau tant qu'il a de l'argent. Un homme est beau tant qu'il a de l'argent. Voilà. Ça, c'est des stéréotypes qui avaient lieu, allez, je vais dire fin du XXe siècle.
Ouais.
On est au XXIe siècle, quasi au XXII. Et là, on change un peu. Les regards changent. Cela étant, il est encore très difficile pour des jeunes. Il est toujours très difficile pour des jeunes d'imaginer que des personnes de plus de 50 ans puissent faire l'amour. Ça reste quand même quelque chose qui est... Alors, ça fait sourire. Ça fait sourire les plus vieux jeux, justement.
Ben, c'est facile. Ça fait vieux jeux. Ouais. On est des vieux jeux pour...
Voilà.
Ouais.
Voilà. Mais c'est un stéréotype que de penser que dans une vie saine, le désir s'arrête avec l'avancée des rides. Voilà. Mais le désir ne s'arrête pas.
Non, pas du tout.
on ne change pas, on ne vieillit pas on a peut-être moins de désirs.
Le physique change, mais l'intériorité est toujours là et on a toujours cette, ben peut-être pas autant, parce que moi je disais que bon, que les personnes à l'automne de leur vie faisaient l'amour deux fois par mois. Et je dirais qu'il y en a peut-être des couples jeunes qui ne font même pas ça. Alors, on peut toujours regarder, hein, et dire ce qu'on veut.
Oui, tout à fait. Deux fois par mois, c'est beaucoup.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Non, c'est pas mal. Il y en a qui font même pas ça. Et qui sont jeunes, qui sont dans la quarantaine.
Exactement, mais c'est vrai qu'on a une époque aujourd'hui qui est beaucoup plus ouverte. On a vu beaucoup de couples, et j'ai trouvé ça magnifique, beaucoup de couples aussi gays, donc LGBT.
Ouais.
Et là, on avait des couples, effectivement, avec des âges plus avancés. On les voyait, des femmes entre elles, avec beaucoup plus avancées. Je pense que d'éduquer l'œil, en fait. On a besoin d'une éducation
d'ouverture. Ouais, je veux dire, on dit ça n'arrive qu'aux autres, mais une fois que ça arrive dans votre famille, que vous avez des parents qui découvrent que leurs enfants ont un autre genre d'homosexualité, qui sont homosexuels ou autres, ben, ils doivent faire face à ça, puis on doit pouvoir l'accepter. On fait une courte pause, puis on revient avec... Il y a plus de femmes que d'hommes, n'est-ce pas, Marie-Pierre? Enfin, on réfléchit à ça, oui.
Quelques mots d'amour, c'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis.
Vous écoutez D'un océan à l'autre avec Francine Broca et Marie-Pierre Midouga. Oui, c'est ma vie et notre vie, on a des frissons, peu importe l'âge.
Tout à fait, et heureusement. Donc, ce qu'il nous reste, c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit et d'éducation. Alors, cela commence grâce en fait à, je pense, à d'autres mouvements.
Oui.
Il faut le savoir aussi, hein, on est des sociétés qui ont non seulement accolé la jeunesse à la sexualité, mais qui ont aussi accolé l'idée qu'on était en couple pour procréer. Donc, dès que la procréation s'arrêtait...
C'était dans la religion, hein, à l'époque, surtout sur les... Je ne sais pas.
Mais ça a quand même influencé notre société et qui reste avec ce type de tabou, quand bien même les personnes qui en parlent aujourd'hui, si vous leur demandez, mais sur quoi tu te bases pour dire que ce couple-là ne devrait pas avoir des relations sexuelles?
Ouais. Mais moi, je vous dirais aussi que Marie-Pierre, c'est que quand on est jeune, on est dans la trentaine, 40 ans, on a tous une carrière, des professions, on travaille beaucoup, donc on a peut-être le stress, moins de temps à faire l'amour, que lorsqu'on arrive à l'automne de notre vie, on n'a que ça. Et que c'est un désir qui est là, on a le temps, on prend le temps pour tout. Le temps qui nous reste, le temps pour vivre, parce que l'horloge tourne, hein. Alors, c'est ça. Et comme vous dites, à ce moment-là, la religion faisait qu'on procréait, puis même les prêtres venaient dans nos maisons pour savoir, ben là, vous avez juste deux enfants, il faudrait peut-être y voir. Et puis, il y avait cette sexualité où les hommes ne pensaient pas beaucoup aux femmes non plus, il faut dire ça.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui change, hein, c'est que on a déjà une population qui sont des baby-boomers.
Mmh.
Lesquels baby-boomers, certains ont fait mai 68. Hein, donc, ouais. Donc déjà, ça a beaucoup changé, ça, cette vision. Parce que
Ben, les baby boomers, c'était de peace and love, hein, c'était ça aussi.
Tout à fait. Et donc, heureusement que ça a beaucoup changé, ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une population de personnes qui ont plus de 70 ans, 80 ans, qui ont été marquées et qui, du coup, se disent « Mais moi, j'ai encore envie. » Ben, j'ai encore envie. Et j'ai envie
d'avoir envie. Bien sûr.
J'ai envie d'avoir envie, pour paraphraser le regretté Johnny Hallyday. Et donc, du coup... les enfants sont un peu perturbés par ça, comme vous l'avez dit, la sexualité des seniors gêne. Et il faut vraiment faire une opération d'ouverture. En fait, il faut vraiment s'ouvrir l'esprit pour se dire, je dois vraiment ne plus accoler jeunesse et sexualité. Parce qu'en fait, on les a accolés avec la procréation. Et ce sont des croyances. C'est des croyances religieuses. Hein,
bien sûr.
Ce sont des croyances religieuses.
Moi, je me souviens d'un voyage à Paris où une tante qui habitait à Paris n'est plus là maintenant, et qu'elle venait de la Perse. Elle avait marié, bon, un Français, et elle avait toute une autre optique de la vie, de l'amour, et ils étaient, je pense, vraiment début peut-être dans la 80, peut-être même jusqu'à 85, et je l'ai les visiter, et elle racontait son histoire en Perse et tout ce qui était, parce qu'à l'époque c'était pas l'Iran, c'était la Perse lorsqu'elle y habitait, et son mari qui était assis en face d'elle, il la regardait, puis quelquefois elle était très droite, elle se tenait très bien, et elle faisait bouger un petit peu sa jupe, elle baissait au bas de ses genoux, il la relavait, et Jean, il la regardait, puis il disait, Hortense, tu m'excites quand tu fais ça, si tu n'arrêtes pas, tu vas passer dans la chambre à côté. Et ça m'avait fait... J'avais trouvé ça. Et l'étincelle qu'ils avaient tous les deux amoureux dans les yeux, c'était extraordinaire de voir ça.
Alors, je pense que c'est... Oui, c'est très... Mais c'est très émouvant. Moi, je vous avais parlé d'un film qui était Harold et Maude.
Oui, oui.
Où effectivement on voit ce jeune homme qui est amoureux d'une femme qui est considérée comme très âgée. Mm-hmm. Je ne sais pas si on dit son âge dans ce, mais c'est un film magnifique. Hein, et donc je ne sais pas quel est l'âge de Maude, mais c'est une dame âgée.
Non, elle n'a pas 60 ans, là, elle est beaucoup plus que ça, je pense même. Hein. Elle est plus. Elle fait vraiment une vieille dame, disons ça comme ça. Hein, elle fait que. À l'automne de sa vie, voilà.
Voilà, elle a presque 80 ans, en fait.
Oui,
hein,
oui, c'est ça.
Dans cette histoire.
Oui.
Et du coup, il tombe vraiment amoureux d'elle, complètement. Et c'est magnifique parce que justement, on voit que le regard qu'il porte sur elle est un regard amoureux.
Ouais.
Vous m'avez parlé, vous, d'un autre film.
Oui, je l'ai même regardé ce week-end parce que je voulais vous en parler et j'essayais de voir pourquoi. Et même nous, comme spectateurs, en le regardant, on ne voit pas ce corps qui est ridé ou ce corps qui est flétri. Et je pense que le réalisateur a fait en sorte que on la voit à travers les yeux de son amoureux. Que lui, bon, bien sûr, il est objectif, il sait bien qu'elle a pas 60 ans, lui non plus, elle a plus cet âge-là. Ils sont tous les deux assez âgés. Mais il la voit, il lui dit comme tu es belle, et les mêmes gestes, et pour lui, bon, il a connu sûrement autre chose, comme elle aussi. Mais il y a quelque chose de plus profond. Et ça devient d'une beauté, vraiment une beauté, c'est au-delà de ça. Au-delà de la sexualité vulgaire qu'on pourrait penser chez les personnes âgées ou des... Non, le regard se fait différemment et je pense que c'est la caméra, la façon que ça a été tourné, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça magnifique et c'est là que j'ai compris qu'on voyait cette dame-là dans les yeux de son amoureux, à travers ses yeux à lui. Comme vous dites, le jeune garçon avec Harold et Maude, la même chose, il la voyait probablement que tous les gens qui la regardaient, il la voyait vieille, ridée, mais lui la voyait tout à fait autrement.
Lui, il la voyait magnifique, et puis oui, peut-être que même il voyait ses rides, parce que...
Ben oui, objectivement, on les voit, bien sûr.
Ouais. On les voit, mais que ses rides, pour lui,
étaient belles.
Elle la rendait magnifique,
elle
la rendait belle.
Ouais.
Et c'est cette notion, on devrait toujours regarder, vous...
Pourtant, c'est ça. De l'autre côté, Marie-Pierre, de l'autre côté de Maude, elle sait qu'elle n'a plus 20 ans. Et étant avec le jeune comme ça, est-ce que dans sa tête, elle pense pas que, bon, il pourrait connaître mieux, avoir un corps plus beau que le sien? Ça doit quand même, je ne dirais pas toujours penser à ça, mais ça doit effleurer notre esprit de femme.
Je ne sais pas. Tout dépend des personnes. Toute femme qui est effectivement amoureuse, tout dépend de son histoire, de la manière dont elle a envisagé. C'est vrai que, vous savez, le cinéma, ça c'est un film qui lutte contre les préjugés d'une certaine manière.
Oui, bien sûr.
Le cinéma est souvent plein. Donc effectivement, on va nous montrer des femmes qui sont très, très, très soucieuses de leurs apparences. Mmh. Qui se disent qu'effectivement il pourrait aller ailleurs. Dans Harold Demos, ce garçon n'est pas bien, il a une imagination débordante, il refuse toutes les demandes en mariage, il a tendance à simuler des suicides, mais il est un peu suicidaire aussi dans sa manière d'être,
bien
ce
sûr.
Garçon. Et cette femme qui est proche de la mort va lui redonner l'envie de vivre, alors qu'elle a 80 ans et que lui, il a 20 ans.
C'est ça. C'est que dans cette sexualité, dans cet amour-là, on trouve toujours autre chose. Je fais beaucoup de lectures pour les personnes aînées dans les RPA, dans les résidences de personnes âgées. Et on disait tantôt, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et bien sûr, quand il rentre un homme dans cette résidence-là, elle se poupoune toute là pour savoir, elles veulent avoir une aventure, un amoureux, ils ont encore ce désir extrêmement fort en dedans d'elles. Et je me souviens qu'un soir j'avais été et il y a des couples qui se forment. Et pourtant, il y a des gens, des directeurs ou des directrices qui veulent empêcher ça. Et ça, je trouve ça aberrant, effrayant, horrible. Ils n'ont pas le droit, je veux dire, ces personnes ont le droit encore à l'amour à leur âge. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'un soir, ce monsieur-là est arrivé un peu en retard en disant « Ah, excusez-nous, mais je vais l'appeler Catherine, c'est qu'après le dîner, nous avons fait une sieste et puis on est passé un peu tout droit. » Mais l'étincelle encore qu'il y avait dans ses yeux, c'était extraordinaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est EHPAD chez vous, ces maisons ici chez nous qui empêchent ça. Ça doit exister chez vous aussi, qui trouve que...
Ça existe. Justement, là, je lisais un article où, en fait, vous avez vu, on a 25% des personnes qui ont une sexualité jusqu'à 85 ans.
Ouais.
Quand on arrive à la retraite, enfin, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, il n'y a plus que 8% des résidents qui déclarent avoir une sexualité au sein de leur maison de retraite. Il y a beaucoup de barrières à ce que les personnes âgées, elles aient une vie intime et une vie sexuelle respectée.
Ah bien sûr, écoutez, pour vous montrer à quel point c'est
fou. C'est l'homme, et la femme,
Ouais. Mais pour vous montrer à quel point c'est fort, on dit même dans les établissements où il y a les personnes Alzheimer, elles vont se retrouver la nuit pour être ensemble.
Oui.
Ouais.
Et elles se cachent. Alors, la grosse difficulté, elle peut être de trois types. La première, c'est qu'on a quand même des équipes professionnelles qui sont parfois très péremptoires sur ce qui est possible de faire ou de ne pas faire pour des adultes. Vous savez qu'on a tendance à infantiliser les personnes âgées. Si vous parlez à une personne âgée comme un bébé, si vous lui parlez, alors elle a bien mangé, elle a bien fait ci, elle a bien fait popo, ça arrive, hein?
Oh non, mais c'est comme ça, vous avez entièrement raison.
Elle n'imagine pas que cette personne âgée, alors qu'elle a été mère, grand-mère, et qu'elle est peut-être arrière-grand-mère, donc elle a eu des enfants, elle a eu une sexualité avant. Mais ces personnes n'imaginent même pas une seconde que cette personne puisse avoir une sexualité. Ils ne l'envisagent même pas. Donc il y a déjà une espèce de frein qui est vraiment un frein dû vraiment sociétal en disant « c'est fini, elles ne peuvent pas, c'est honteux ». D'ailleurs, il y a vraiment ces mots qui ont été accolés. Vous devriez avoir honte. Pourquoi on devrait avoir honte de notre désir?
Oui, pourquoi?
Quand il est avec une personne appropriée, etc. Il ne peut pas y avoir de honte. Ensuite, c'est par les familles. Les familles, elles sont terribles. Les enfants, qui viennent très rarement voir leurs parents. On le sait, en majorité. Mais ces mêmes enfants, allez leur dire que leurs parents a noué une relation sentimentale avec une autre personne, ils se mettent à avoir peur de leur héritage, ou je ne sais quoi, et ils interdisent à leurs parents d'avoir une relation sexuelle ou une relation sentimentale. Et puis ensuite, en troisième lieu, par les personnes âgées elles-mêmes. Et ces petits, et ces statistiques, et cette, ce que je suis en train de vous dire, c'est corroboré par Marie Fèvre, qui est responsable de la promotion de la santé dans le groupe Humanis, hein, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les amours de vieillesse ». Et donc, il y a vraiment tout un travail à faire. Et donc, pourquoi ? Mais c'est parce qu'un EHPAD, c'est d'abord une institution de santé, plutôt qu'un lieu de résidence.
Oui, peut-être, oui. Mais la santé, la, la sexualité, ça passe par la santé aussi. Comme je me disais tantôt, c'est une...
On est tout à fait d'accord, sauf que du coup, les personnes ont du mal à intégrer que ces chambres ne sont pas que des chambres de soins, ce sont des chambres de vie. Et lorsqu'on explique, il faut vraiment expliquer aux enfants que c'est une chambre de vie, que cette personne qui est là, certes, elle a perdu son époux il y a quelques années, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle a perdu toute capacité à aimer, à éprouver à nouveau du désir. Et que c'est important pour le bien-être de cette personne. D'ailleurs, on le sait, les personnes qui continuent à avoir une vie sexuelle et les personnes qui continuent à être amoureuses sont des personnes qui vivent plus longtemps.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. C'est un équilibre aussi, hein. On en a besoin. On peut parler à n'importe quel sexologue et il nous dira ce qu'il en est. On va faire une courte pause et j'aimerais que peut-être vous nous disiez comment les gens peuvent changer leur regard face à ça. Pour que ça, la situation s'améliore un peu pour ces personnes qui aiment à finir leur vie dans leur sexualité.
Mais quand à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis.
Nous sommes de retour, c'est notre dernier segment. Nous parlons de l'amour et la sexualité à l'automne de notre vie. Alors Marie-Pierre, comment peut-on faire pour que la société change le regard vis-à-vis ça ?
Déjà, s'habituer à voir des personnes âgées de plus en plus, vous voyez, dans la vie quotidienne, mais comme on ne les voyait pas avant, c'est très bien qu'il y ait ces défilés, ces modes, ces images, ces réseaux sociaux aussi. Merci, les réseaux sociaux nous permettent de voir autre chose, de voir des couples amoureux qui se tiennent la main, qui s'embrassent, de voir d'en parler surtout, parce qu'on s'aperçoit que quelles sont les barrières les plus tenaces à ce que les personnes âgées aient une sexualité, ce sont des barrières familiales. C'est les familles. Hein,
ouais. Mais on les voit, même quand c'est l'été sur les plages, on voit des personnes aux cheveux blancs se tenir par la main ou se faire des bisous. Et vous voyez des jeunes à côté se moquer carrément de ça. C'est odieux.
Alors les jeunes, c'est normal parce qu'ils ont peur de vieillir en fait et que ça les rappelle qu'ils vont vieillir.
Ouais, il faut les apprendre. Il faut quand même.
Voilà, il faut leur apprendre. Mais ce qui est plus dommageable, ce sont plutôt. Les enfants qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années, c'est eux qui font des freins dans les EHPAD, c'est eux qui mettent leurs parents en EHPAD, hein. Et c'est eux qui considèrent qu'en fait, c'est vraiment très compliqué pour eux. En fait, il y a trois choses qui se jouent. La première, c'est qu'ils voient leurs parents qui refait leur vie. Ça, c'est compliqué pour eux, surtout s'ils ont beaucoup aimé leur papa, vous savez, alors, ou leur maman, mais c'est souvent les mamans qui sont âgés, qui sont en EHPAD. Et c'est très compliqué pour eux parce qu'ils n'imaginent pas Le deuil, c'est déjà très difficile quand des enfants perdent un de leurs parents. Ils ont beaucoup de mal à voir le parent se remarier. Alors là, si c'est en EHPAD, c'est encore plus. Donc en fait, il y a vraiment besoin de discuter avec un psychologue ou avec un coach de vie parce que réellement, c'est une souffrance. Hein. Ce n'est pas simplement la peur du qu'en dira-t-on.
Il y a
vraiment des enfants qui sont en souffrance. Et les questions d'héritage, ce n'est pas les plus prégnantes. Hein. Très souvent, c'est vraiment une souffrance de voir son parent refaire sa vie. Alors, il y a aussi un rappel du droit. Comment on peut faire ? Ben, quand son parent est en EHPAD, c'est au directeur ou à la directrice de repréciser quelles sont les règles. En EHPAD, les professionnels sont là pour protéger le résident. D'accord ? Ou la résidente. Et donc, ils ne sont pas là pour prévenir la famille en cas de relation. Donc, c'est la vie privée du résident et sa vie auquel il a droit. Et puis, même en cas de relation extra-conjugale, ils n'ont pas le droit de prévenir les enfants. Alors, c'est souvent, et il faut former. Alors, ce n'est pas tellement les médecins qu'il faut former, mais il faut vraiment former le personnel. Parce que si le directeur a cette règle, vous allez avoir des personnes, souvent des assistantes, des aides-soignantes, qui n'ont pas forcément toute cette formation-là intellectuelle. Hein, parce qu'on leur apprend à soigner, mais on ne leur apprend pas forcément tout l'environnement. Parfois si, parfois non. Et donc, il va falloir les former, qu'il y ait des formations sur cette question-là, les relations extra-conjugales ou les relations ne les regardent pas. Ça, c'est très, très important. Et Marie Fèvre, dont je vous parlais tout à l'heure, du groupe humaniste, rappelle que l'adultère n'est pas un délit et qu'il n'existe pas de recel d'adultère. Donc donc rappeler la loi quand on est dans un EHPAD et rappeler que le parent, il n'est pas incapable majeur. Ça serait peut-être. Alors, le problème se pose dans les cas d'Alzheimer ou de démence.
Oui, c'est un peu différent, d'accord. Ouais.
Voilà. Mais on peut déjà former le personnel soignant, apporter une aide aux enfants parce qu'ils sont en souffrance et leur expliquer que ce n'est pas parce qu'ils ont placé leurs parents en EHPAD qu'ils sont devenus les tuteurs véritables. Ils les ont placés en EHPAD pour maladie parce que c'est plus facile ou en résidence parce que la personne n'est plus en vie.
Elle
ne voulait pas dire qu'elle n'avait plus le droit à aucune sexualité. Ça, c'est très important. Ensuite, effectivement, la question se pose quand on a la démence. Parce qu'on se dit, est-ce que les deux personnes sont consentantes à avoir une relation sexuelle ?
Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas un drame qui se joue ? Et donc, en général, là encore, il faut qu'il s'assure du consentement des deux personnes. Ça, c'est... Par contre, il appartient au directeur, à la directrice, aux équipes soignantes, de s'assurer qu'il y a bien consentement des deux personnes.
Ouais.
Ça, c'est important.
Pas qu'il y ait un monsieur qui va visiter les dames pendant la nuit. Oui, d'accord.
Voilà, et qu'il n'y ait pas une situation d'abus. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'on est malade d'Alzheimer qu'on n'a pas besoin de caresses.
Ah ben non.
Et qu'on n'a pas besoin de contact physique, de massage, qui ne soit pas des massages médicaux. Ça, c'est toute la question, mais elle se pose également dans notre société, à propos du handicap d'ailleurs. Hein,
Oh, mais il y avait justement une dame comme ça qui était placée et sa fille avait très peur parce que, bon, elle était très portée sur la chose et puis on la retrouvait toujours avec, mais enfin, c'était la même personne avec qui elle allait retrouver la nuit. Puis sa fille trouvait ça épouvantable parce qu'elle sait pas ce qu'elle fait. Puis on l'a dit non, écoutez, là, elle va retrouver toujours la même personne, elle revient dans sa chambre après et puis voilà. Elle sait ce qu'elle fait.
Elle sait ce qu'elle fait, ou en tout cas, c'est une relation qui l'épanouit et qui, voilà. Et ça, c'est très important. On parlera un jour de cette, parce que cette même question se pose avec les personnes handicapées ou en situation de handicap mental, moteur, où effectivement, on imagine que parce que les personnes sont handicapées, elles n'ont pas le droit
d'avoir
une vie. Donc, c'est la même question. Tout est une question de formation, d'ouverture d'esprit, de bienveillance. Envers l'âge. Parce que c'est une question de bienveillance. Est-ce que je m'autorise, moi, à avoir une vie sexuelle ? Oui. Donc, je vais autoriser
les autres en avoir une aussi, voilà.
Bah, c'est surtout que les personnes qui m'ont mis au monde, elles en avaient une avant moi, puisque je suis née. Donc, c'est rappeler quand même une petite évidence. Ouais. Donc, les parents savent très bien ce dont il s'agit. Ouais. Ils nous ont créés, donc ils ont une sexualité pour nous avoir.
Il nous reste une minute, Marie-Pierre. Comment on pourrait conclure ça, finalement, en beauté, là? Laisser vivre et vivre, comment on pourrait dire?
Laisser vivre et vivre, open your mind and your heart. Ouvrir son cœur. En fait, à chaque fois que... C'est la coach de vie qui parle, évidemment. À chaque fois qu'on envisage de parler de l'autre, il faut s'imaginer que l'autre est mon double. Donc, si j'ai le droit d'avoir une sexualité, ouais, il est bien que pour vivre heureux et épanoui, je puisse combler tous mes besoins essentiels. La sexualité est un besoin essentiel.
Ouais. Alors, même à tout âge, hein, à l'automne de notre vie, il nous reste si peu de temps qu'il faut savoir en profiter aussi. Essayez de laisser vivre les autres, sans toujours porter un regard de jugement aussi. Je sais que c'est peut-être difficile de voir nos parents comme ça, comme vous dites, c'est surtout les enfants de 40 ans qui ont ce regard sur leurs parents, mais il faut les regarder aussi comme des êtres humains.
Tout à fait.
Ouais. Enfin, on fera une autre émission, c'était fort intéressant, mais on en fera aussi sur les gens qui ont un handicap. Je trouve ça, il y a beaucoup à parler et à dire là-dessus aussi.
Oui, tout à fait, quand on parle des travailleurs sexuels ou pas, et je suis partagée, mais c'est important d'avoir ce débat aussi.
D'avoir ce débat. Ben, écoutez, Marie-Pierre, on vous souhaite, ben là, il est trop tard pour avoir du soleil, hein, il est presque 20h chez vous. Alors, ben, bonne fin de soirée, et puis on vous souhaite une bonne semaine, et nous, on se retrouve vendredi pour un autre sujet d'un océan à l'autre. Portez-vous bien.
Tout à fait.
Oui, merci à vous d'être.
Moi, je vous embrasse.
Moi aussi. Grosse bise. Et merci à vous, la France. Merci à vous, à Montréal, d'être aussi fidèle à notre rendez-vous. Je suis Francine Broca et l'on se retrouve vendredi pour un autre océan à l'autre.
Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air? Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris.